Chapitre 13. Contenant la grande habileté de l'hôtesse, le grand savoir du chirurgien et la preuve incontestable que le bon lieutenant était un savant casuiste. Quand le blessé eut été porté dans son lit et que le tumulte que cet accident avait occasionné commença à se calmer, l'hôtesse s'adressa en ces termes à l'officier commandant. « Je crains bien, monsieur, dit-elle, que ce jeune homme ne se soit pas conduit envers votre seigneurie comme il l'aurait dû, et s'il avait été tué, je suppose qu'il n'aurait eu que ce qu'il méritait. Il est sûr que quand des gentilshommes admettent dans leur compagnie des personnes d'un rang inférieur, ils doivent les tenir dans le respect. Mais, comme mon premier mari avait coutume de le dire, il y a bien peu qui sachent s'y tenir. Pour moi, je vous assure, je n'aurais jamais souffert que des gens de cette espèce se mêlent dans la compagnie des gentilshommes. Mais je pensais qu'il était officier jusqu'à ce que le sergent m'eût dit qu'il n'était qu'un sergent de recrue. « Hôtesse, répondit le lieutenant, vous êtes tout à fait dans l'erreur. Le jeune homme s'est parfaitement bien conduit, et je le crois beaucoup meilleur gentilhomme que l'enseigne qu'il a maltraité. Si le jeune homme meurt, celui qui l'a frappé aura les plus grandes raisons de s'en repentir, car le régiment se débarrassera d'un très mauvais sujet qui déshonore l'armée. Je vous permets de me blâmer, madame, s'il échappe aux mains de la justice. Je ne vous dis que cela. » Ah ah, bon Dieu, dit l'hôtesse, qui aurait jamais pu penser ça? Ah, je suis charmé quand votre seigneurie m'assure que justice sera faite. Et sûrement, elle devrait être faite à tout le monde. Les gentilshommes ne devraient pas pouvoir tuer les pauvres gens impunément. Un pauvre homme a une âme à sauver aussi bien que les plus gros seigneurs. Mais je vous dis, madame, répondit le lieutenant, que vous ne rendez pas justice aux volontaires. J'ose jurer qu'il est plus gentilhomme que l'officier. Ah, s'écria l'hôtesse, il ne faut pas s'en fier à ses yeux. Eh bien, il est clair que mon premier mari était un habile homme. Il avait coutume de dire, vous ne pouvez pas toujours juger de l'intérieur par l'extérieur. Il est vrai que l'extérieur peut être bien aussi, car je n'ai jamais vu le jeune homme que lorsqu'il était tout couvert de sang. Qui l'aurait jamais pensé? Hélas, c'est peut-être quelque gentilhomme contrarié dans son amour. Jour malheureux, s'il venait à mourir, quel chagrin ce serait pour ses parents. Il faut assurément que le misérable qui a commis une si vilaine action soit possédé du démon. Oh, sûrement, il déshonore l'armée, comme le dit votre seigneurie, car presque tous les gentilshommes qui sont au service, et que j'ai vus, sont tout à fait différents. Ils semblent dédaigner de répandre le sang d'un chrétien, tout autant que ceux qui remplissent des fonctions civiles. Comme mon premier mari avait coutume de dire, certainement, quand on va à la guerre, il faut s'attendre qu'il y aura du sang répandu. Mais il ne faut pas blâmer nos armées pour cela. Plus elles tuent de nos ennemis, et mieux elles font, et je souhaiterais de tout mon cœur qu'elles puissent tuer jusqu'au dernier de leurs enfants. « Oh, fille, madame, répondit le lieutenant en souriant, jusqu'au dernier? Ce souhait est par trop sanguinaire. » « Pas du tout, monsieur, répliqua-t-elle, je ne suis pas du tout sanguinaire. Je n'en veux qu'à nos ennemis, et il n'y a pas de mal à cela. » Certainement, il est bien naturel que nous désirions la mort de nos ennemis, afin que les guerres finissent et que nous soyons dégrevés de nos impositions. Car c'est une chose terrible de payer autant que nous payons. Comment l'on paye aujourd'hui plus de 40 shillings pour le jour qu'on reçoit de ses fenêtres, et nous en avons pourtant bouché tout autant que nous avons pu, au point, en vérité, qu'on n'y voit presque plus goutte dans la maison. Je dis l'autre jour au collecteur, lui dis-je, « Je pense que vous devriez nous favoriser, car sûrement nous sommes de très bons amis du gouvernement. »« Oui, nous le sommes, pour sûr. Nous lui payons assez d'argent pour cela. » »« Et pourtant, je pense souvent à moi-même que le gouvernement ne se croit pas plus obligé envers nous qu'envers ceux qui ne lui payent presque rien. »« Oui, oui, voilà le train du monde. » Elle allait continuer sur ce ton quand le chirurgien entra dans la salle. Le lieutenant lui demanda aussitôt comment allait son malade. Mais il ne lui fit d'autre réponse que celle-ci, mieux, je crois, qu'il ne serait en ce moment si l'on ne m'avait pas appelé. Et même dans l'état actuel des choses, il aurait été peut-être plus heureux que l'on m'eût appelé plus tôt. « J'espère, monsieur, dit le lieutenant, que le crâne n'est pas fracturé. »« Ah, s'écria le chirurgien, les fractures ne sont pas toujours les symptômes les plus dangereux. Les contusions et les meurtrissures sont souvent suivies d'accidents plus graves et de conséquences plus funestes que les fractures. Les gens qui n'entendent rien à la chose concluent de ce qu'il n'y a pas de fracture au crâne que tout est bien. Et moi, j'aimerais mieux voir le crâne d'un homme brisé tout en pièces que certaines contusions que j'ai rencontrées dans ma vie. « J'espère, dit le lieutenant, qu'il n'y a pas ici de pareils symptômes. » « Les symptômes, répondit le chirurgien, ne sont pas toujours réguliers ni constants. J'ai vu des symptômes très fâcheux dans la matinée, devenir favorables à midi et redevenir fâcheux le soir. C'est notamment des blessures que l'on peut dire véritablement et judicieusement « nemo repente fuit turpissimus », c'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite à l'extrémité. Je me souviens d'avoir été une fois appelé pour un malade qui avait reçu une contusion violente sur le tibia. La peau extérieure était déchirée au point qu'il en était sorti une grande quantité de sang, et les membranes intérieures étaient si offensées que l'on voyait très distinctement l'os à travers l'ouverture de la blessure, que nous appelons en latin « vulnus ». Quelques symptômes fébriles paraissant au même instant, car le pouls était exubérant et indiquait une grande abondance de sang, je craignis la gangrène. Pour la prévenir, je lui fis une large ouverture à la veine du bras gauche et j'en tirai 20 onces de sang, que je m'attendais à trouver extrêmement gluant et glutineux, ou même coagulé, comme cela a lieu dans les pleurésies. Mais, à ma grande surprise, il me parut couleur de rose et vermeil, et différent peu, quant à son épaisseur, de celui d'un homme en parfaite santé. J'appliquai alors sur la partie une fomentation dont l'effet répondit complètement à mon attente. Et après 3 ou 4 appareils, la plaie commença à jeter un pus épais ou une matière épaisse, et par ce moyen le rapprochement des chairs, autrement dit la cohésion. Mais peut-être je ne me fais pas parfaitement entendre. Non, dit le lieutenant, je ne peux pas dire que j'entende un seul mot de ce que vous dites. Eh bien, monsieur, continua le chirurgien, je n'abuserai pas plus longtemps de votre patience. Enfin, au bout de 6 semaines, mon malade fut en état de se servir de ses jambes et de marcher aussi parfaitement qu'avant d'avoir reçu la contusion. « Je désire, monsieur, dit le lieutenant, que vous vouliez bien seulement avoir la bonté de me dire si la blessure que ce jeune homme a eu le malheur de recevoir vous paraît être mortelle. « Monsieur, répondit le chirurgien, dire au premier appareil si une blessure est mortelle ou non, ce serait une stupide et folle présomption. Nous sommes tous mortels. Et dans une cure de cette espèce, il arrive quelquefois des accidents que les plus habiles de notre état ne sauraient prévoir. Mais le croyez-vous en danger? Dit le lieutenant. En danger, oui, sûrement, s'écria le docteur. Quel est celui parmi nous qui, dans la plus parfaite santé, ne puisse pas être réputé en danger? À plus forte raison, peut-on dire qu'un homme blessé aussi grièvement que celui-ci ne soit pas en danger? Tout ce que je puis dire à présent, c'est qu'il est très heureux que j'aie été appelé et qu'il aurait mieux valu peut-être que j'eusse été appelé plus tôt. Je le reverrai demain matin de bonne heure. Il faut cependant avoir soin qu'il soit fort tranquille et lui faire boire de l'eau de gruau en abondance. « Ne lui permettrez-vous pas un peu de sakwe ? » Dit l'hôtesse. « Oui, oui, un peu de sakwe si vous voulez, répondit le docteur, pourvu qu'il soit très léger. « Et un peu de bouillon de poulet ? » ajouta-t-elle. « Oui, oui, le bouillon de poulet, dit le docteur, est très bon. « Ne puis-je pas aussi lui faire quelques gelées ? » Dit l'hôtesse. « Oui, oui, répondit le docteur, les gelées sont fort bonnes pour les blessures. Elles facilitent le rapprochement des chairs. » Il fut réellement très heureux que l'hôtesse n'eût pas parlé de soupe ou de sauce relevée, car le docteur y aurait consenti plutôt que de perdre la pratique de la maison. Il ne fut pas plus tôt parti que l'hôtesse, faisant l'office de la renommée, se mit à vanter son mérite au lieutenant, qui, d'après cette courte visite, n'avait pas conçu de son habileté une opinion aussi favorable que celle que la bonne femme et tout le voisinage en avaient. Peut-être à juste titre, car quoique le docteur, si je ne me trompe, fût un peu présomptueux, il se pouvait néanmoins qu'il fût un très bon chirurgien. Le lieutenant, ayant recueilli de la savante dissertation du chirurgien que M. Jones était en grand danger, donna ordre qu'on gardât très sévèrement M. Northerton dans l'intention où il était d'aller avec lui le lendemain matin chez le juge de paix et de laisser le soin de commander l'escorte qui devait le conduire à Gloucester au lieutenant français qui, quoiqu'il ne sût ni lire ni écrire ni parler aucun langage, n'en était pas moins un bon officier. Dans la soirée, le commandant fit dire à M. Jones que si une visite ne lui était pas importune, il se rendrait auprès de lui. Jones reçut cette politesse avec plaisir et reconnaissance, et le lieutenant monta dans sa chambre où il trouva le blessé beaucoup mieux qu'il ne l'espérait. Jones assura même son ami que si le chirurgien ne le lui avait pas expressément défendu, il serait levé depuis longtemps, car il se sentait aussi bien qu'il eût jamais été et n'éprouvait d'autre suite de sa blessure qu'une extrême douleur à la tête du côté où il avait reçu le coup. « Je serais bien charmé, dit le lieutenant, que vous fussiez aussi bien que vous vous l'imaginez. Vous pourriez alors vous faire justice sur le champ, car lorsqu'une affaire ne peut se terminer tout de suite, comme dans le cas d'un coup violent tel que celui-ci, le plus tôt qu'on peut en finir avec son adversaire est toujours le mieux. Mais je crains que vous ne vous croyez mieux que vous n'êtes et qu'il n'ait trop d'avantages sur vous. J'essaierai cependant, répondit Jones, si vous le trouvez bon et si vous avez la complaisance de me prêter une épée, car je n'en ai point ici. De tout mon cœur, mon épée est à votre service, mon cher enfant, s'écria le lieutenant en l'embrassant. Vous êtes un brave garçon, mais je crains que vous n'ayez pas autant de force que de courage. Un coup aussi violent, une perte de sang aussi abondante, doivent vous avoir extrêmement affaibli. Et quoique vous ne sentiez pas dans votre lit tout ce qui vous manque de force, vous le sentiriez probablement après une botte ou deux. Je ne puis donc consentir à ce que vous sortiez avec lui ce soir. Mais j'espère que vous serez en état de nous rejoindre avant peu, car nous ne tarderons pas à nous remettre en marche. Et je vous donne ma parole d'honneur que vous aurez satisfaction, ou l'homme qui vous a maltraité ne restera pas au régiment. Je souhaiterais, dit Jones, qu'il fût possible de terminer cette affaire ce soir. À présent que nous en avons parlé, je sens que je ne pourrai plus dormir. Ne pensez point à cela, reprit le lieutenant. Quelques jours de plus n'y feront rien. Les blessures de l'honneur ne sont pas comme celles du corps. Elles ne souffrent point de la lenteur qu'on met à la guérir. Il sera tout aussi bien pour vous d'en avoir raison un peu plus tard. Mais supposez, dit Jones, que mon état empire et que je meure des suites de ma blessure. Alors, votre honneur, répondit le lieutenant, n'aura plus besoin de réparation. Je me charge de vous rendre justice et de témoigner devant tout le monde que votre intention était de vous conduire convenablement si vous étiez rétabli. « Je n'en suis pas moins affligé de ce retard, répliqua Jones. Je suis presque honteux de vous le dire, à vous qui êtes un militaire. Mais quoique j'aie toujours été un jeune étourdi, au fond, et lorsque j'y réfléchis sérieusement, je suis réellement attaché à la religion chrétienne. Et moi aussi, je vous assure, dit le lieutenant, et avec tant de zèle, qu'à dîner je fus charmé de vous en voir prendre le parti. Je suis même en ce moment un peu fâché contre vous, jeune homme, pour la crainte que vous témoignez de professer votre religion devant qui que ce soit. Mais combien doit trembler, s'écria Jones, un véritable chrétien qui se complaît dans l'animosité qu'il porte au fond du cœur, malgré le commandement de celui qu'il a expressément défendu. Comment, dans mon lit, malade, puis-je nourrir une idée aussi criminelle? Comment oserais-je me présenter devant l'être suprême avec un article de cette nature dans les comptes qu'il me faudra lui rendre? « Je crois comme vous que ce commandement existe, » s'écria le lieutenant, « mais un homme d'honneur ne peut y obéir. Et il faut que vous soyez un homme d'honneur si vous voulez entrer au service. Je me souviens que, buvant un jour un bol de punch avec notre aumônier, je lui proposais la difficulté. Il convint que le cas était très embarrassant, mais il espérait, me dit-il, que Dieu avait sans doute accordé quelque latitude aux militaires dans ces sortes d'occasions. » Notre devoir est du moins de l'espérer. Car qui pourrait supporter la vie après avoir perdu l'honneur? Non, non, mon cher enfant, soyez bon chrétien toute votre vie, mais soyez aussi homme d'honneur, et ne souffrez jamais patiemment un affront. Tous les livres, tous les ecclésiastiques du monde ne parviendront jamais à me persuader d'être un lâche. J'aime assurément beaucoup ma religion, mais j'aime davantage mon honneur. Il faut qu'il y ait quelque erreur dans la copie du texte, ou dans la traduction, ou dans le sens qu'on lui prête, ou quelque autre faute que je n'aperçois pas. Mais quelle qu'elle soit, il faut encourir le risque, car il faut surtout conserver son honneur. Reposez-vous donc tranquillement cette nuit, et je vous promets que vous aurez la possibilité de vous faire justice vous-même. Il embrassa Jones tendrement, lui serra la main et se retira. Mais quoique le raisonnement du lieutenant fût très convaincant pour lui, il ne l'était pas à beaucoup près autant pour son ami. Jones, après avoir attentivement considéré la chose sous toutes ses faces, prit enfin une résolution que le lecteur trouvera dans le chapitre suivant. Chapitre 14. L'un des plus effrayants chapitres que l'on ait jamais lu. Je conseille à peu de lecteurs de le lire dans la soirée, surtout s'ils se trouvent seuls. Jones avala un bon bouillon de poulet, ou plutôt de coq, avec un très bon appétit. Et en vérité, il aurait avalé d'un aussi bon cœur le coq qui avait servi à le faire et une livre de jambon par-dessus. Se sentant alors plein de force et de santé, il prit le parti de sortir pour aller trouver son ennemi. Mais il envoya d'abord chercher le sergent, qui était la première connaissance qu'il eût faite dans toute la troupe. Malheureusement, ce digne officier ayant, dans le sens le plus littéral, bu tout ce que son estomac pouvait contenir de liqueur, s'était retiré depuis quelque temps sur son lit, où il ronflait si fort que ce n'était pas une chose aisée de faire parvenir à ses oreilles un bruit capable de couvrir celui qui sortait de son nez. Cependant, comme Jones persistait dans le désir de le voir, un des garçons du cabaret, qui avait la voix extrêmement forte, parvint non sans peine à l'éveiller et à l'instruire du message dont il était chargé. Le sergent se leva aussitôt, et comme il était tout habillé, le suivit sur le champ. Jones ne crut pas à propos de confier son dessein au sergent, quoiqu'il l'eût pu en toute sûreté, car il était lui-même un homme d'honneur et avait tué son homme. Il aurait donc fidèlement gardé non seulement ce secret, mais encore tout autre, pour la découverte duquel on n'aurait pas publiquement promis une récompense. Mais comme Jones, qui ne le connaissait que depuis peu, ne savait pas qu'il possédât ces vertus admirables, sa précaution fut peut-être prudente, et mérite même quelques éloges. Il commença donc par informer le sergent que, maintenant qu'il était entré au service, il était honteux de ne pas avoir ce qui était peut-être la chose la plus nécessaire à un soldat, c'est-à-dire une épée, ajoutant qu'il lui serait infiniment obligé s'il pouvait lui en procurer une. « Je vous en donnerai, lui dit-il, un prix raisonnable. Je n'exige point qu'elle ait une garde et une poignée d'argent, je ne veux qu'une bonne lame, telle qu'elle puisse convenir à un bon soldat. » Le sergent, qui savait bien ce qui était arrivé, et avait ouï dire que Jones avait été très dangereusement blessé, conclut aussitôt d'un tel message, fait à une telle heure de la nuit, qu'un homme dans cet état était nécessairement en délire. Et comme il ne manquait pas de présence d'esprit, je n'emploie ce dernier mot que dans sa signification la plus commune, il pensa qu'il pourrait tirer avantage de la situation du malade. « Je crois, monsieur, lui dit-il, que j'ai votre affaire. Je possède une épée excellente. Elle n'a ni la garde, ni la poignée d'argent. Et comme vous dites, cela ne conviendrait pas à un soldat. Mais la poignée en est assez propre, et la lame est une des meilleures de l'Europe. C'est une lame qui, en un mot, je vais vous la chercher à l'instant, vous la verrez et vous la manierez. Je suis au comble de la joie de voir monsieur aussi bien. » Étant au moment même revenu avec son épée, il la remit à Jones, qui la prit et la tira. Il dit au sergent qu'elle lui convenait beaucoup et lui en demanda le prix. Le sergent commença à faire l'éloge le plus pompeux de sa marchandise. Il dit, il alla même jusqu'à jurer effrontément qu'il l'avait prise à un officier français du plus haut rang à la bataille de Dettingen. « Je la pris moi-même à son côté, ajouta-t-il, après lui avoir fendu la tête. La garde en était d'or, mais je l'ai vendue à l'un de nos élégants. Car il y en a quelques-uns, je vous en demande pardon, monsieur, qui font plus de cas de la poignée que de la lame. » Jones l'arrêta au milieu de sa harangue et lui demanda encore une fois de mettre un prix à son épée. Le sergent, qui croyait la raison de Jones absolument perdue et qu'il ne pouvait aller loin, craignit de faire tort à sa famille s'il demandait trop peu. Cependant, après avoir hésité un moment, il se contenta de demander 20 guinées et jura qu'il ne la donnerait pas pour un sol de moins à son propre frère. « 20 guinées ! » dit Jones, extrêmement surpris. « Vous croyez sans doute que je suis fou ou que je n'ai pas vu une seule épée de ma vie. 20 guinées ? Est-il possible ? Je n'aurais jamais cru que vous fussiez capable de me tromper. Voici votre épée, reprenez-la. Mais non, je pense que je ferai mieux de la garder. Je la montrerai demain matin à votre officier, et je l'informerai en même temps du prix que vous m'en avez demandé. » Le sergent, comme nous l'avons dit, avait toujours sa présence d'esprit, dans le sens que nous lui avons donné tout à l'heure, et vit clairement que Jones n'était pas dans un si triste état qu'il l'avait cru. Il affecta donc en ce moment une aussi grande surprise que Jones en avait montré, et lui dit « Je vous assure, monsieur, que je ne vous ai pas surfait, autant que vous pouvez le croire. D'ailleurs, vous devez considérer que c'est la seule épée que j'ai, et que je m'expose nécessairement à la colère de mon officier en paraissant sans épée en sa présence. Et, en vérité, en mettant tout cela ensemble, je ne crois pas vous demander trop en vous demandant 20 shillings. » « 20 shillings ? » s'écria Jones. « Et quoi ? Vous me demandiez tout à l'heure 20 guinées. »« Comment ? » s'écria à son tour le sergent. « Sûrement il faut que monsieur m'ait mal entendu, ou que je me sois mal expliqué moi-même. En vérité, je suis encore à moitié endormi. 20 guinées ! Je ne m'étonne pas que monsieur se soit mis dans une telle colère. 20 guinées, en effet. Mais non, non, c'est 20 shillings que j'ai voulu dire, je vous assure. » Et quand monsieur prendra la peine de considérer tous les sacrifices que je fais, il ne trouvera pas, j'espère, que ce soit un prix si exorbitant. Je dois convenir que vous en pourriez trouver à meilleur marché une qui aurait tout autant d'apparence, mais... » Jones l'interrompit en lui disant, « Je suis si loin de vouloir marchander avec vous que je vous donne 1 shilling de plus que vous ne demandez. » Il lui donna alors 1 guinée, l'invita à retourner se coucher et lui souhaita un bon voyage, ajoutant qu'il espérait rejoindre le détachement avant qu'il fût arrivé à Worcester. Le sergent prit respectueusement congé de lui, fort satisfait de son petit marché, et non moins charmé de l'habileté avec laquelle il s'était relevé du faux pas dans lequel l'avait entraîné l'opinion qu'il avait conçue que Jones était en délire. Aussitôt que le sergent se fut retiré, Jones se leva et s'habilla entièrement, mettant même son habit, dont la couleur blanche laissait voir ostensiblement les marques de sang dont il était couvert. Et prenant en main l'épée qu'il venait d'acheter, il se disposait à sortir quand la pensée de ce qu'il allait entreprendre l'arrêta soudain. Il commença à réfléchir qu'il était possible que dans peu de minutes il eût ôté la vie à un homme ou perdu la sienne. « Fort bien, dit-il, et pour quelle cause vais-je exposer ma vie ? Pour quelle cause ? Pour celle de mon honneur. Et quel est cet homme, un coquin qui m'a offensé et insulté sans provocation ? Mais la vengeance n'est-elle pas défendue par le ciel ? Oui, mais elle est ordonnée par le monde. Fort bien. Mais dois-je obéir au monde lorsque ses lois sont en opposition avec les commandements exprès du ciel ? Dois-je m'exposer à la colère divine plutôt qu'à m'entendre appeler à un lâche, un poltron ? Ah, n'y pensons plus, j'y suis déterminé. Il faut absolument que je me batte avec lui. L'horloge venait de frapper 00h, et tout le monde était couché dans la maison, excepté la sentinelle établie pour garder Northerton. Lorsque Jones, ouvrant doucement sa porte, sortit pour aller chercher son ennemi, le garçon lui ayant parfaitement décrit le lieu qui lui servait de prison. Il ne serait pas aisé de se peindre une figure plus effrayante que la sienne en ce moment. Il avait, comme nous l'avons déjà dit, un habit blanc couvert de sang. Son visage était pâle, car, outre le sang qui avait coulé de sa tête, le chirurgien lui en avait encore tiré plus de 20 onces. Il avait autour de la tête une quantité de bandages qui ne ressemblait pas mal à un turban. De plus, il avait dans sa main droite une épée et dans sa gauche une chandelle. Au total, Banquo lui-même, tout souillé de sang, n'eût pas été digne de lui être comparé. Dans le fait, je ne crois pas qu'une apparition plus épouvantable se soit jamais montrée dans un cimetière, ni dans l'imagination de la plus stupide des bonnes femmes rassemblées autour du feu, à la veillée de Noël, dans le Somersetshire. Dès que la sentinelle vit approcher notre héros, ses cheveux se dressèrent et soulevèrent son bonnet de grenadier. Ses genoux tremblèrent au point de frapper l'un contre l'autre. Tout son corps fut saisi d'une agitation plus violente que celle que produit un accès de fièvre. Elle fit feu et tomba tout de son long sur le visage. Je ne puis dire si c'est la crainte ou le courage qui l'engagèrent à lâcher son cou, ou si elle visa l'objet de sa frayeur. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il eut le bonheur de manquer son âme. Jones, la voyant tomber, devina la cause de sa frayeur et ne put s'empêcher d'en sourire, sans réfléchir le moins du monde au danger dont il venait d'échapper. Il passa à côté de la sentinelle qui était toujours demeurée dans la même posture et entra dans la chambre où on lui avait dit que Northerton était renfermé. Il y trouva seulement un pot de bière vide sur la table. Quelques gouttes qui y étaient répandues indiquaient assez que la chambre avait été habitée depuis peu. Mais, pour le présent, elle était entièrement vacante. Jones soupçonna alors qu'elle pouvait conduire à quelque autre appartement, mais il eut beau chercher tout autour, il ne put apercevoir aucune porte que celle par laquelle il était entré et où l'on avait placé la sentinelle. Il se mit alors à appeler plusieurs fois Northerton par son nom, mais personne ne répondit. Et cela ne servit qu'à confirmer dans sa terreur la pauvre sentinelle qui demeura convaincue que le volontaire était mort de ses blessures et que son esprit était là à la recherche du meurtrier. Elle éprouva en ce moment toutes les transes d'horreur qui peuvent frapper l'imagination, et j'aurais désiré de tout mon cœur que quelques-uns des acteurs qui doivent par la suite représenter un homme frappé d'effroi eussent pu voir celui-ci. C'est là qu'ils auraient appris à copier la nature au lieu de s'épuiser en tours de force et en gestes forcenés à l'exemple de leurs prédécesseurs. Le tout pour plaire aux galeries et obtenir leurs applaudissements. Voyant que l'oiseau s'était envolé, désespérant au moins de le trouver, et craignant avec raison que le bruit du coup de feu n'alarmât toute la maison, notre héros souffla sa chandelle et retourna sans faire de bruit à sa chambre où il se recoucha. Il n'eût certainement pas manqué d'être découvert s'il y avait eu à cet étage une autre personne qu'un homme retenu dans son lit par la goutte. Car avant qu'il pût être arrivé seulement à la porte de sa chambre, celle devant laquelle la sentinelle avait été placée était à moitié pleine d'une foule de gens, les uns en chemise, les autres un peu plus couverts, et tous se demandant l'un à l'autre, avec une extrême curiosité, ce qui avait donné lieu à tout ce bruit. On trouva le soldat absolument dans la même place et dans la même posture que nous venons de le laisser. Plusieurs de ceux qui étaient présents s'occupèrent à le relever. Quelques-uns crurent même qu'il était mort, mais ils s'aperçurent bientôt de l'erreur où ils étaient, car non seulement il se débattait contre ceux qui mettaient la main sur lui, mais il se mit à beugler comme un taureau. Il croyait réellement que tous ceux qui le touchaient étaient autant d'esprits ou de démons, et son imagination, une fois frappée de l'horreur d'une apparition, croyait ne voir et ne sentir que des spectres et des fantômes. Enfin, il fut vaincu par le nombre, et remis sur ses deux jambes. Quand on eut rapporté de la lumière, et qu'il eut distingué deux ou trois de ses camarades présents, il revint un peu à lui. Mais quand ils lui demandèrent ce qui s'était passé, il répondit « Je suis un homme mort, voilà tout. Je suis un homme mort, je ne peux pas en revenir, je l'ai vu. »« Qu'as-tu vu, Jacques ? » dit un des soldats. « Ce que j'ai vu le jeune volontaire qui a été tué hier. » Il jura alors avec les plus terribles imprécations qu'il avait vu le volontaire tout couvert de sang, vomissant le feu par la bouche et par le nez, qu'il avait passé à côté de lui, était entré dans la chambre de l'enseigne Northerton, avait saisi l'enseigne à la gorge et l'avait emporté dans les airs au bruit d'un tonnerre affreux. Ce récit fut accueilli avec faveur par le plus grand nombre de ceux qui étaient présents. Les femmes surtout le crurent sans hésiter et prièrent le ciel de les préserver de pareilles choses. Parmi les hommes, il y en eut aussi beaucoup qui ajoutèrent foi à l'histoire, mais quelques autres s'en moquèrent et la tournèrent en ridicule. Et un sergent qui se trouva là répondit très froidement « Vous aurez de mes nouvelles, jeune homme. Je vous apprendrai à dormir et à rêver quand vous êtes à votre poste. » Le soldat répliqua « Vous pouvez me punir si vous voulez. » Mais j'étais tout aussi éveillé que je le suis maintenant. Que le diable m'emporte, comme il a emporté l'enseigne, si je n'ai pas vu l'homme mort, comme je vous le dis, et si je n'avais pas les yeux aussi grands et aussi vifs que les deux plus gros flambeaux. » Le commandant de la troupe et la commandante de la maison venaient d'arriver. Le premier n'étant pas encore endormi, et entendant la sentinelle faire feu, crut de son devoir de se lever sur le champ, quoiqu'il s'embarrassât fort peu qu'il fût arrivé ou non quelque malheur. Mais les craintes de l'autre étaient beaucoup plus fortes. Elle craignait surtout que ses cuillères et ses pots ne suivissent la marche de la troupe sans ses ordres. Notre pauvre sentinelle, pour qui l'aspect de cet officier n'était pas beaucoup plus agréable que le fantôme qu'il croyait avoir vu, raconta une seconde fois son épouvantable histoire, non sans y ajouter encore plus de sang et de feu qu'auparavant. Mais elle eut le malheur de ne se faire croire ni du lieutenant, ni de la maîtresse de la maison, car l'officier, quoique extrêmement pieux, était au-dessus de toutes les terreurs de cette espèce. D'ailleurs, l'état dans lequel il avait laissé Jones ne lui permettait pas d'avoir la moindre crainte qu'il fût mort. Quant à la maîtresse, quoiqu'elle ne fût pas plus pieuse qu'il ne fallait, elle n'avait aucune sorte d'aversion pour la doctrine des esprits. Mais il y avait dans l'histoire une circonstance qu'elle savait très bien être fausse, comme nous allons en instruire le lecteur. Mais soit que Northerton eût été emporté au milieu du tonnerre ou du feu, soit qu'il eût employé une toute autre méthode pour s'évader, il était clair que son corps n'était plus en prison. La conclusion que le lieutenant en tira ne fut pas fort différente de celle du sergent. Il ordonna aussitôt que l'on mît la sentinelle en prison, en sorte que par un revers de fortune assez étrange, quoique assez commun dans l'état militaire, celui qui était le gardien fut gardé à son tour.